Je me demande ce que sont devenues les archives d'Emmanuel Ratier après sa mort en 2015, survenue singulièrement dans un accident de spéléologie. La spéléologie sociale, c'était la science d'Emmanuel Ratier, journaliste et libraire à la réputation détestable, mais infatigable archiviste de la vie parisienne, grand collectionneur avant Facebook et LinkedIn, de faits, de conjonctions et de hasards inexplicables dans la vie des élites parisiennes. Dans la cave de sa librairie parisienne, la librairie Facta, derrière l'église de la Trinité, Emmanuel Ratier accumulait en effet les fiches biographiques visualisées ainsi de l'extérieur, protégé par la pureté sociale de sa situation. Il était d'extrême droite d'une façon que j'imagine volontiers sacerdotale, comme on s'interdit la lumière du jour, comme on s'interdit les joies de la photosynthèse médiatique, moins pour le plaisir pervers d'avoir les mains toujours sales des crimes de la Seconde Guerre mondiale que pour l'orgueil de posséder le monde sans lui appartenir. Emmanuel Ratier était un romantique comme l'était Balzac, un réactionnaire malheureux prisonnier du présent et toujours obligé de fournir, pour lui garder son mépris intact, une quantité incroyable d'ingénierie sociale en holocauste. Sa seule façon de ne pas appartenir à ce monde, qu'il imaginait sans doute corrompu, c'était d'en connaître tous les réseaux, tous les liens causaux, toutes les collusions possibles, de faire de Paris une énorme boule d'élastique qu'il devait regarder grossir dans un coin de son bureau à mesure qu'il accumulait les fiches comme autant de contraintes supplémentaires, de géodésiques nouveaux, de complots asphyxiants. Cette esthétique de la cave et du complot est cependant compensée chez Balzac, et c'est en cela qu'il est un grand romancier, par une esthétique plus lumineuse, celle de la bienséance des salons, des relations cordiales, de la courtoisie des hommes. Le pouvoir n'est pas seulement un puits, c'est une tour. Balzac rédigeait des fiches innombrables lui aussi, mais sur un papier si transparent que ses romans laissent encore passer la lumière. Balzac savait toujours trouver des relations qui ne se limitaient pas à des relations d'intérêt. Et c'est précisément ce que les fiches d'Emmanuel Ratier occultent, que les gens aiment passer du temps ensemble et que le calcul étroit de leur intérêt est équilibré par le simple plaisir qu'ils ont de se voir, de s'apprécier, de médire, de comploter pour le plaisir, pour la joie toute humaine qu'il y a à faire société et à faire vivre en commun un ensemble de valeurs et leur réfutation. Il n'y a pas plus agréable, plus délicat, plus moral même qu'une société humaine, si on lui pardonne d'emblée son hypocrisie et sa corruption, si on admet que celle-ci ne procède pas d'un lourd secret qu'elle dissimule, mais relève à leur manière de ces normes de politesse. Qui voudrait vivre dans un monde où personne ne dirait jamais du mal de personne ? Il faut laisser ce rousseauisme maniaque aux pamphlétaires. On a trop souvent résumé l'architecture insolite de la maison de Balzac à un problème de créancier. Il lui fallait nécessairement deux sorties, mais son charme actuel tient surtout à ce qu'elle soit sur deux niveaux, une entrée bucolique aérienne côté jardin et une entrée par le bas, par une ruelle caverneuse. Balzac connaissait les deux mondes. Tout cela m'est revenu en regardant Juan Branco parler, avec un talent romanesque indéniable, du macronisme, en passant exclusivement par la porte du bas, en dénonçant les intérêts composés qui composent cette alliance contre nature, en réalité si commode, entre la droite et la gauche. Tous les matériaux, explique-t-il, sont venus par le bas, par la scène fangeuse des intérêts privés, par les grandes barges plates et monotones du capital. Et s'il peut arriver que le macronisme ait l'air d'une utopie paisible, comme sur les couvertures de magazines du couple Macron à la plage ou au ski, cela relève encore de la construction du complot de Mimi Marchand, la reine des paparazzi, le vautrin de ce monde. Juan Branco, et c'est tout à son honneur, ne laisse rien au hasard, il donne au récit macroniste la nécessité d'une légende. Défaut typique des jeunes romanciers, Juan Branco achoppe pourtant sur un écueil évident. Il ne croit pas un seul instant à son personnage principal. Or, je pense qu'on ne peut rien comprendre si on ne reconnaît pas à Macron une innocence ou une bêtise, si on a lu Cervantes, typiquement chevaleresque. C'est peut-être Mimi Marchand qui a battu cette maison par la porte du bas, mais il est évident que Macron y est entré par la porte du haut. Il connaît ses fondations, mais ce n'est pas là qu'il a installé ses appartements.